Ils iront voir Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, il va rien dire de péché. Simplement, il va dire: aujourd'hui, mon Seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Allez voir autre que moi, allez voir Mohammed. Et là, ils iront voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dira: Ana laha. Je suis fait pour ce moment-là. Et là, le prophète alayhi salam, il se dirigera en dessous du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il va longtemps glorifier Allah azza wa jal. Il va longtemps glorifier, louer Allah tabaraka wa ta'ala. Et à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala dira ce qu'il ne dira à aucun autre prophète. Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Ô Muhammad, lève ta tête. Wasal tu'ta. Demande, on te donne. Washfa' tu shafa'. Et intercède, tu seras intercédé, tu seras accepté. Et là, qu'est-ce qu'il dira le prophète, alayhi sallam? Ummati, ma communauté. Regarde la miséricorde de notre prophète, alayhi sallam, envers sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Également, le prophète, sallallahu alayhi sallam, quand tu étudies sa vie, il ne s'est jamais vengé. Il ne s'est jamais vengé pour quelque chose comme lui. À chaque fois, c'était quand les gens y transgressaient l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il ne se mettait jamais en colère, sauf quand les gens lui faisaient du tort, il ne se mettait pas en colère. Mais il pardonnait. Et il se mettait en colère simplement lorsque les gens transgressaient les interdits d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais pour lui-même, quand les gens lui causaient du tort, il ne se mettait jamais en colère. Il ne se mettait jamais en colère. Comme l'histoire avec quand il a été envoyé à Taif. Certains savants disent qu'il a séjourné 10 jours. 10 jours. 10 jours à Taif. Et durant cette période, il a appelé les gens à l'islam. Personne ne répondit. Les notables de Taif, etc. Personne ne voulait. Yanni n'a voulu répondre à son appel. Et il lui disait quoi? Sors de notre pays. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni tous les fous, tous les enfants, etc. pour le sortir. Et ils ont commencé à l'insulter. Ils lui ont crié dessus jusqu'à temps que les gens se sont ameutés. Ils sont mis en plusieurs rangs. Ils lui ont jeté des pierres. Ils l'ont insulté. Et subhanallah al-azim, ils l'ont blessé. Ils ont blessé le prophète, alayhi sallam. Ses chaussures, elles se sont abîmées. Elles étaient pleines de sang, tellement il saignait. Ses chaussures, elles étaient remplies de sang. Et là, le prophète, alayhi sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est éloigné. Il s'est mis à un endroit et a prié. Les pieds en sang. Et là, Allah, azza wa jalla, il lui a envoyé l'ange des montagnes. Et il lui a dit: Ya Muhammad, je ferai ce que tu désires si tu veux. Yani, je peux replier les montagnes sur elles-mêmes, si tu le veux. Et là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le prophète de la miséricorde, le prophète de la rahma, il a dit: je n'ai pas été envoyé comme malédiction, mais comme miséricorde pour l'univers. Il a dit: je souhaite plutôt qu'Allah azza wa jalla fasse sortir de leur rein une progéniture qui adore Allah tabaraka wa ta'ala unique sans rien lui associer. Chose subhanallah. Donc regarde,
c'est à ce moment-là qu'elle a été révélée sur
le djinn. Et à ce moment-là, quand le prophète Sam ensuite il est parti, c'est là qu'il a prié. Et que les djinns, regardez subhanallah, les gens de Taïf n'ont pas répondu à son appel, mais les djinns. Et il y a eu un bien dans le fait que les gens de Taïf ne répondent pas à son appel, puisque leurs enfants ont répondu plus tard par la dua du prophète. Et ensuite, après cela, les djinns l'ont entendu réciter. Puisqu'en fait, dans Salat al-Djinn, il y a deux passages. Il y a deux passages différents de la vie du prophète. Salat al-Djinn, ce n'est pas tout le même passage. D'accord ? Tu as deux passages. Tu as le premier passage à ce moment-là où ils ont entendu le prophète réciter et là, ils ont été avertir leur peuple. C'est pour cela que parmi les djinns, il n'y a pas de prophète. Le prophète, c'est lui le prophète des djinns et des êtres humains. Les djinns, ils n'ont pas de prophète djinn. Ils ont des avertisseurs, comme ces gens-là. Et il y a aussi un autre moment dans la vie du prophète Sam où que, et les deux, ils sont relatés dans Sourate Al-Jin. Vous pourrez lire le tafsir. Donc, on peut bien voir à quel point le prophète, alayhi salatu wa salam, avait yani été miséricordieux envers sa communauté. Envers sa communauté. Un dernier exemple, ensuite on revient au sujet. Mais c'est tellement des exemples marquants. Et des exemples, un modèle pour nous, le prophète, alayhi salam. Un jour, il est parti en expédition. Il est parti en expédition avec ses compagnons. Et il était fatigué. Le prophète, alayhi salam, il était fatigué. Qu'est-ce qu'il a? Il a reculé, il s'est éloigné un peu. Il a choisi l'arbre le plus ombragé, où est-ce qu'il y avait le plus d'ombre. Il a accroché son épée sur l'arbre et il s'est endormi. Alayhi salam. Et là, un bédouin parmi les associateurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité que les compagnons étaient en train de dormir. Il est arrivé et il a saisi l'épée du prophète. Imagine la scène. Il a saisi l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il se mit alors, il s'est mis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il lui a dit le bédouin? Il lui a dit, qu'est-ce qui va m'empêcher de te tuer? Ah, je suis tout seul, t'es tout seul. T'es allongé, je suis debout. J'ai une épée, t'en as pas. Qu'est-ce qui va m'empêcher de te tuer? Et là, le prophète, avec toute confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, avec toute adoration, avec toute sérénité, qu'est-ce qu'il a répondu? Allah. Allah, azza wa jalla, il va t'empêcher de me tuer. Et Allah, azza wa jalla, a fait en sorte que sa main soit paralysée et l'épée est tombée. Et là, le prophète, tranquillement, il a repris l'épée et lui a dit, et là maintenant, qui va m'empêcher de te tuer? Qui va m'empêcher de te tuer? Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sois meilleur. Le bédouin, il a dit, sois meilleur preneur. Il a dit, sois meilleur preneur. Et là, le prophète Sassam lui a dit, est-ce que tu attestes? Est-ce que tu attestes de la ilaha illallah? Qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah? L'homme lui a dit, non, je n'atteste pas. Mais je te donne ma parole que je ne combattrai jamais et que je ne serai jamais parmi les gens qui te combattront. Yanni, je te donne ma parole que je ne te combattrai jamais. Et je ne ferai jamais partie des gens qui te combattront. Et là, le prophète Hassan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé partir en paix. Il a laissé partir en paix. Et qu'est-ce qu'a dit le bédouin quand il est rentré chez lui? Il a dit, je suis revenu à vous de chez le meilleur parmi les gens. Yanni, je suis revenu à vous d'aller dans ma tribu, mais j'ai quitté le meilleur parmi les gens. Regarde, subhanallah al-azim. Tous ces exemples nous prouvent à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam était miséricordieux envers sa communauté et envers les gens d'une manière générale. Donc on reprend. Lorsque l'impureté, et c'est ça qui est beau dans le din, c'est que d'un sujet sur les impuretés, regarde subhanallah comment même un sujet comme ça, il te remonte ta foi. Pourquoi? Parce que il n'y a rien dans notre din, il n'y a rien dans notre religion qui a été laissé. Il n'y a rien dans notre religion qui a été laissé. Et tout ce que l'on étudie fait partie du din. Il ne faut jamais négliger n'importe quelle science. Parce que dans toutes ces sciences-là, n'importe quel cours, n'importe quelle science, parce que toutes ces choses-là vont te faire... Le fait d'apprendre ta religion, cela va te faire remonter ta foi. Donc, les impuretés qui ont été sur la surface, et aller du sol, sur les murs, etc., là, il suffit simplement de jeter de l'eau dessus. Également, si il y a des impuretés, un exemple par terre, et qu'il pleut, ou qu'il y a le torrent, ou si l'eau allait passer dessus, ça suffit. Ça suffit pour purifier l'endroit. Voilà, donc si on jette de l'eau dessus, ou si l'eau de la pluie a coulé dessus, ou si l'eau d'un fleuve à couler dessus, ici ça suffit comme purification. Ensuite, le deuxième point, wa in kanat an-najasatu ala ghayri al-ard wa mattasala biha. Maintenant, si l'impureté se trouve en dehors de la terre, donc c'est pas une impureté qui est sur la terre ou sur un mur ou sur un rocher ou autre. Donc ici, on détaille. Si cette impureté provient d'un chien ou provient d'un khinzir, provient d'un porc. Alors ici, les savants ont divergé. Certains ont dit que le chien et que le porc étaient des impuretés. D'autres, ils ont dit qu'il y a seulement le chien qui est une impureté et pas le porc. Et d'autres, ils ont dit qu'il y a seulement le porc et pas le chien. Yani, parmi les, certains Hanafis, hein, parmi les Hanaf, mais ce n'est pas un avis yani, qui est convaincant. Ala kulli hal, vous, ce qui est important de savoir, c'est que là, la plupart des savants, akthar ul-ulama, la majorité ou la plupart des savants disent que le chien et le porc sont des impuretés. Le chien et le porc sont des impuretés. عند مالك pour l'imam Malik rahimahullah, et c'est l'avis qu'a pris Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que cela, que le chien, que le porc, pardon, n'est pas une impureté. C'est-à-dire que pour eux, toucher le porc ou le chien, cela n'annule pas les ablutions. Simplement, c'est la salive du chien qui est une impureté. C'est la salive du chien qui est une impureté. C'est-à-dire que la salive, si le chien te touche par sa salive ou même par ce qui est mouillé, en fait, par son museau, etc., ça annule pas tes ablutions. Parce que c'est pas parce qu'une impureté t'a touché que ça annule tes ablutions. Par contre, tu dois nettoyer cette impureté. Donc ici, il faut bien faire la différence. Donc ici, le cheikh considère, hafidhallah, que le chien et le porc sont des impuretés et tout ce qui provient de eux. Donc les chiots et les porcinés, c'est ça? Le bébé du porc, Teslim, comment on dit? Le porciné, je crois. C'est ça, non? Là, tu auras appris. Le porc, quand il y a un bébé, ça s'appelle le porciné.
Et c'est quoi un porc?
Un porc, c'est un khinzir. Tu connais le khinzir? En français, on dit un porc. D'accord, un cochon. Et le cochon. Khalas. Donc, comment on fait pour se purifier de leur salive ou là de leur impureté? On doit se laver. On doit laver. Un exemple, si la salive du chien, elle a touché ton vêtement, tu dois le laver 7 fois. Et un des lavages doit être avec de la terre ou du sable. Et subhanallah, il y a quelques années, j'écoutais un dars dans une mosquée. Et le frère, hafidhallah, l'imam qui faisait le dars, il ramenait même des avis médicaux, etc., des recherches qui ont été faites, que seule la salive, etc., du chien contenait tellement de saleté que seule avec de la terre ou du sable, elle pouvait être effacée ou nettoyée, etc. Donc regardez dans le fait... Comme le prophète s'est dit, إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَا أَحَدِكُمْ, lorsque le chien yani, bave dans le récipient d'un d'entre vous, فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا, qu'il le lave 7 fois. أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ, et une de ces fois avec de la terre, etc. Et ici, le cheikh, donc c'est un hadith rapporté par les musulmans, le cheikh ici, حَفِظَ dit, هَذَا الْحُكْمُ عَامٌ, il dit, cette règle est générale, فِي إِنَا, donc soit dans le récipient, mais que ce soit dans les habits, dans le tapis, peu importe. D'accord, c'est général. Donc c'est pour cela ici, c'est venu dans d'autres hadiths, l'interdiction pour le musulman d'avoir un chien chez lui. D'accord, pour la chasse c'est autorisé, pour la garde c'est autorisé, mais le fait d'avoir un chien, chaque jour que tu passes, c'est un qirat. Un qirat, comme l'équivalent d'une montagne de hasanat, de tes hasanat qui tombent. Donc ici le musulman doit prendre garde contre le fait de posséder cet animal, le chien, à la maison. Cela ne fait pas partie de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, si c'est une impureté en dehors du chien et du khinzir, comme un exemple, si c'est de l'urine qui est tombée sur tes vêtements, ou des excréments ou du sang, etc. Dans ce cas-là, ici, tu te dois de le laver avec de l'eau, de gratter et d'essorer. Donc ici, ça ne suffit pas. Un exemple, tu as de l'urine sur ton habit, tu as des excréments sur ton habit. Ici, ça ne suffit pas de passer de l'eau simplement. Tu dois le laver, gratter, essorer jusqu'à ce qu'elle parte. Et jusqu'à ce qu'il n'y ait ni trace ni couleur. Jusqu'à ce qu'il n'y ait ni trace, ni couleur. Ensuite, un cas, des fois ça peut arriver, par exemple, même pour ceux qui n'arrivent pas à se contrôler, etc., que l'urine ou il y a de l'impureté sur toi, mais tu ne sais pas exactement c'est où. Si tu vois un exemple, les gouttes, où tu sais exactement c'est où qu'il y a eu, là, tu laves, tu grattes, tu nettoies, etc. pour que tout y part. Par contre, tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, par exemple, des fois, ça peut arriver, la personne est tellement pressée que l'urine, elle coule, il n'a pas pu, donc, entre guillemets, et il est dans un endroit où il ne peut pas changer. Parce que généralement, les gens vont dire, ah, on change complètement, je prends une douche. Tu es dans un endroit, tu es dans l'avion, tu es dans le train. Yannis, c'est des cas qui peuvent arriver à tout le monde. Tu es dans un endroit où tu ne peux pas te changer, tu es au travail ou autre. Donc, si tu ne sais pas exactement où l'impureté a touché, que ce soit sur ton vêtement, ou que ce soit sur ton corps, ou que ce soit, Yannis, sur un endroit précis, d'accord, comme un exemple, tu es dans une petite salle de prière ou sur ton tapis de prière ou autre. Ici, il est obligatoire de laver tout ce que tu penses que l'urine aurait pu toucher. Donc un exemple, toi tu as senti un exemple l'urine couler sur ta cuisse, dans ce cas-là, tout il doit être lavé, tout il doit être nettoyé, tout il doit être lavé, d'accord? Tout l'endroit où que tu penses que l'impureté aurait pu toucher, tout ça doit être lavé. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu es certain que tu l'as enlevé. Donc là, faut pas être laxiste dans le sens, ah ben, non, là faut y aller. D'accord, jusqu'à ce que tu peux être certain, que tu es certain qu'elle s'est effacée. Et si vraiment tu ne sais pas du tout, dans ce cas-là, tu es obligé de tout laver. Dans ce cas-là, tu es obligé de tout laver. Wa illam yadri fi ayi jihatin min ghasalahu jami'a. Ensuite, un point important. Quant à l'urine de l'enfant, ça arrive souvent. L'enfant, tu le prends, Yanni, ça couche, et, ou même tu changes sa couche, tu urines dessus, etc. Ici, il y a quelques points importants à voir. Donc ici, c'est un point important à voir. Donc ici, il dit le cheikh, وَيَكْفِي فِي تَطْهِيرِ بَوْلِ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامِ رَشُّهُ بِالْمَا. Donc ici, on va faire la différence entre le garçon et la fille. Donc retenez bien, suivez avec moi. On fait la différence entre le garçon et la fille. Et on fait la différence entre l'enfant, donc ici le garçon qui mange de son plein gré et celui qui ne mange pas encore et qui a allaité. D'accord? Donc suivez bien avec moi. Si l'urine, donc ici pour que tu comprennes bien, on a trois catégories. La fille, c'est une catégorie. Le garçon qui mange, donc on va dire après l'allaitement, le jeune garçon qui mange de son plein gré, c'est une deuxième catégorie. Et le jeune garçon qui a allaité. Vous me suivez? Le jeune garçon qui a allaité, donc le petit garçon, le petit bébé, qui a encore, qui ne mange pas encore de son plein gré, etc. Lui, son urine n'est pas une impureté. Il suffit simplement de... On ne va pas dire son urine n'est pas une impureté, pardon. On va dire que son urine, lorsqu'il urine sur ton vêtement ou sur ton corps ou autre, il suffit simplement de verser de l'eau dessus. Il suffit simplement de verser de l'eau dessus. Sans frotter, sans gratter, sans laver. Tu mets simplement de l'eau dessus. Comme ça a été rapporté dans le hadith de Qais, elle est venue avec un enfant qui était petit et qui ne le mangeait pas encore. Elle est venue auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle l'a assis. Et l'enfant a uriné sur son vêtement. Donc le prophète a demandé de l'eau et il a simplement aspergé de l'eau dessus et il ne l'a pas lavé. Et le hadith, il est dans le Bukhari et Muslim. Par contre, quand l'enfant, donc la deuxième catégorie, quand l'enfant mange de son plein gré, de sa propre volonté, etc., eh bien son urine a le même jugement que l'urine du grand. D'accord? Quant à l'urine de la fille, c'est la même chose, peu importe qu'elle mange ou qu'elle ne mange pas, c'est la même chose, ça prend le même jugement que l'urine de la femme. Donc dans toutes ces situations, on nettoie comme on nettoiera une autre impureté. On prie les frères. Et ici, la question, elle peut se poser. Pourquoi faire la différence entre l'urine de la fille et l'urine du garçon? Chose, subhanallah al-azim. Il a été rapporté donc déjà il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc qui disait on lave l'urine de la fillette et on asperge de l'eau sur l'urine du petit garçon. Un hadith authentique. Maintenant, pourquoi l'urine du petit garçon est différente à l'urine de la petite fille? Écoutez ce qu'Abou Yaman al-Misri disait. Il dit, j'ai interrogé Shafi'i. Écoutez bien cette histoire qui est étonnante. J'ai interrogé Shafi'i sur le hadith. Et il dit, donc à partir de ce hadith, on lave l'urine de la fillette et on asperge simplement avec de l'eau l'urine du garçon. Il dit, j'ai interrogé les mêmes Shafi'i rahimallah sur ce hadith. J'ai interrogé les mêmes Shafi'i sur ce hadith. Donc c'est Abou Yaman al-Masri qui parle. Et lui dit, alors que les deux liquides sont les mêmes. Allez, le liquide, l'urine du petit garçon, c'est le même que l'urine de la petite fille. Et Anis, c'est quoi la différence? Et là, donc, il reprend, il dit, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une différenciation alors que les deux urines sont les mêmes? Aucun des deux, ni le garçon, ni la fille ne mange. Les deux sont allaités. Lui, il parle dans le cas où les deux ils sont allaités. Ce qu'on peut comprendre, si, quand c'est la première catégorie qu'on a citée, ou je ne sais plus, à la Kulihal, on peut comprendre quand le petit garçon il mange. Mais là, quand les deux ils sont allaités, c'est compliqué à comprendre. Qu'est-ce que l'imam Shafi'i, rahimahullah, il a dit? Écoutez bien. Il lui a dit, écoutez sa réponse, comment elle est ajib. Il lui a dit, « لِأَنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ وَبَوْلَ الْجَارِيَ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ » Il lui a dit, « Parce que l'urine du garçon provient de l'eau et de l'argile, et l'urine de la fille provient de la chair et du sang. » Et là, Abou Yaman, il regarde, ébahi d'air de dire, « Mais je ne comprends pas, j'ai toujours pas compris. » Tu vois, il lui a dit, c'est comme une énigme. Yani, cherche comment l'urine du garçon, il vient de l'eau et de l'argile, et l'urine de la fille vient de la chair et du sang. Et là, Al-Shafi'i, rahimallah, il a vu que Abou Yaman n'avait pas compris. Il a vu qu'Abou Yaman n'avait pas compris. Et celui qui rapporte, il a dit tout comme nous. Il y a personne n'avait compris dans l'assise. Et là, Shafi'i, rahimallah, de lui dit, est-ce que tu as compris? Il lui a dit, non, je n'ai pas compris. Alors déjà, avant d'expliquer la parole de Shafi'i, Mohamed, t'as compris ou pas?
Moi, l'intérêt de l'argile, c'est Adam et la chair, c'est la côte.
Ahsan Allah ilayk, exactement. Il dit, Shafi'i, rahimallah, il dit, lorsqu'Allah, Azza wa Jalla, a créé Adam, Adam a été créé avec quoi? De l'argile. Et ensuite, parce que ça c'est important, وَلَقَدَ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ طِينَ. Nous avons certes créé l'être humain à partir d'argile. Ça c'est Allah Azza wa Jalla a créé Adam à partir d'argile. Mais nous, est-ce qu'on vient de l'argile? Nous-mêmes, on vient de l'eau. On vient d'une goutte de sperme, c'est de l'eau. Donc, c'est venu de l'argile à la base et de l'eau. Alors que l'urine de la femme, et ici, Hawa. Allah Azza wa Jalla, la première femme qu'il a créée, c'est Hawa. Elle a été créée avec quoi, Hawa? D'une côte, il y a une petite côte. Elle est venue de chair et de sang. Donc regardez ici, subhanallah al-azim, la différence entre ces deux urines. Et ensuite il dit, alors l'urine du garçon vient de l'eau et de l'argile, et l'urine de la fille vient de la chair. Vient de la chair et du sang. D'accord, les frères? Ensuite, il est important, donc un point suivant, toujours dans ce chapitre, il est important de connaître maintenant, une fois qu'on a compris la différence et comment se purifier de ces impuretés, c'est important de savoir qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui est impur parmi les excréments et l'urine de certains animaux. Parce que ce n'est pas tous les excréments et tous les urines qui sont, parmi les animaux bien sûr, surtout c'est la hayawanat, qui sont impurs. Et ça c'est un point important, parce que ça peut te servir dans certains cas. فَمَكَانَ يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِ مِنْهَا فَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ طَهِرُ. Première catégorie très importante. Celui qui nous, yani la viande dont il nous est permis de consommer, donc les animaux dont on est permis de consommer leur viande. Dans ce cas-là, leur urine et leurs excréments sont purs. Retenez cette règle. Leur urine et leurs excréments sont purs. Quel ibil ou al-baqar ou al-ghanam. Comme les chameaux, comme les veaux, les vaches, comme les moutons, yani tout ce qui rentre dans ces familles-là. Tout cela, Annie, font partie des choses. Leurs excréments et leurs urines ne sont pas impurs. Et ça, c'est important de le savoir. Quand t'as le mouton dans ton jardin. So, subhanallah. T'as le mouton dans ton jardin, des fois tu veux, un exemple, t'as la famille, etc. Peut-être t'as été pris avec, tu vas dire, bah, on va saler ici, ou des fois, on va prendre un exemple. Autorisé, un exemple, quand l'Eid, comme l'année dernière, ça tombe le Jumu'ah. Ça tombe le Jumu'ah, l'Eid. Dans ce cas-là, la prière du Jumu'ah n'est plus obligatoire. Donc, un exemple, tu es avec la famille, etc. Tu vas prier, Dhuhr, on va le prier ici. Et ça arrive, non, mais prie pas là, parce que le mouton, il y a des féqués, etc. Dans ce cas-là, c'est des choses importantes. C'est des choses importantes à savoir. Ou même, toi, quand tu portes le mouton, des fois, il peut te faire dessus toutes ces choses-là. Je donne l'exemple du mouton, parce que c'est des choses qu'on... Je pense pas qu'on ramène un bœuf ou un chameau dans notre jardin. Mais ça arrive. Et ça peut arriver. Dans ce cas-là, sachez que c'est tahir. Ce n'est pas une impureté. Et, notamment dans un hadith, également dans le Bukhari muslim, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque on lui avait donné un ibil, un chameau en sadaqa, il a ordonné qu'on lui ramène son urine. Et il a bu de l'urine du chameau et du lait du chameau. Donc ici le hadith, plus précisément, dans Bukhari Muslim, il y a plusieurs versions, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, alayhi wa sallam, leur a ordonné de suivre ces chameaux et de boire leur lait et leurs urines. Ici, il avait même conseillé à ceux qui étaient malades. Il avait même conseillé à ceux qui étaient malades de boire le lait et l'urine du chameau. C'est ce qu'ils firent jusqu'au recouvrement de leur santé, jusqu'à ce qu'ils ont retrouvé la santé. Également, Anas ibn Malik radiallahu anhu. Donc il rapporte que des gens d'une certaine tribu sont venus à Médine. Ils sont venus trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, donc on reprend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est rapporté dans Sahih Muslim, le hadith 3162, et dans la version française c'est le 961. D'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, il dit, les gens de l'Urayna, donc d'une des tribus, sont venus à Médine. Donc écoutez bien cette histoire, subhanallah al-azim. Ils sont venus à Médine. Et ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se convertir. Et à ce moment-là, ils ont eu très très mal au ventre. Ils ont eu mal au ventre, ils sont tombés malades. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, si cela vous convient, allez boire du lait et de l'urine des chamelles de l'aumône. C'est-à-dire qu'ils avaient reçu des chamelles en aumône. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a accueillis, leur a donné le remède. Allez là-bas, il se trouve un berger, allez là-bas et vous pourrez boire de l'urine de la chamelle et de son lait. Ils ont suivi le conseil du prophète alayhi sallam, ils ont bu et ils se sont rétablis. Ils ont retrouvé la santé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué le berger d'une manière atroce. Ils ont tué le berger, ils ont retard, ils sont revenus sur leur foi, ils ont mécru en Allah, tabaraka wa ta'ala, et au messager d'Allah, alayhi sallam, et ils ont volé les chameaux, ils sont partis. Ils ont volé les chameaux et ils sont partis. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été mis au courant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné que, yani on suit leur trace, la trace des hommes, et ils les ont rejoints et ils les ont ramenés au prophète alayhi salatu salam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué le qisas. Il a appliqué le talion. Il a ordonné qu'on leur coupe les mains et leurs pieds, et il a ordonné de crever leurs yeux au fer rouge. Et de les laisser à cet endroit, al-harra. Et de les laisser à cet endroit. Et ils sont morts, comme cela, à cet endroit-là. Et ici, comme on a dit, al-qisas. Ça, c'est la loi du talion. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de les tuer de cette manière? Parce que ces bandits, ces criminels, avaient tué le berger de la même manière. Ils avaient tué le berger de la même manière. Et le hadith, il se trouve dans le sahih de l'imam muslim. Donc, cela nous prouve, et il y a énormément de bienfaits quant au fait de boire l'urine de chamel. Il y a énormément de bienfaits au niveau de la santé. Et ça, vous pourrez faire vos recherches dessus, parce que c'est un sujet qui est long, mais il y a beaucoup de khair dans cela. Donc, ce hadith nous prouve que l'urine de ces animaux est pure. Que l'urine de ces animaux n'est pure. Pourquoi? Parce que si cela serait impur, eh bien, il aurait été interdit de prendre cela comme remède. On ne peut pas prendre comme remède quelque chose d'impur, ni de le boire. Certains ont dit, oui, mais là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a autorisé cela par nécessité. Certains ont répondu comme cela. Le cheikh, il dit, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on répond? Il dit, لَمْ يَأْمَرْهُمُ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَىٰ وَسَلَمْ بِرَسْلِ أَثَرِ. Il dit, dans ce cas-là, si ça aurait été une nécessité, ben le prophète Sam, il aurait ordonné de nettoyer les traces. Parce que si c'était une impureté, il y aurait des traces sur la bouche, etc. Dans ce cas-là, il ne leur a pas ordonné. Il ne leur a pas ordonné de nettoyer les traces. Yani, quand vous voulez prier, nettoyez les traces, non. S'il aurait autorisé cela comme nécessité et ce serait resté une impureté, dans ce cas-là, il aurait ordonné qu'il aurait dû nettoyer les traces. Et également, les savants répondent d'une autre manière. Ils disent, avant que la mosquée ne fût construite, eh ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait où? Dans l'endroit, dans les clôtures des moutons. Et il a ordonné que l'on prie dans ces clôtures-là. Et il n'y a aucun doute que dans ces clôtures, eh ben, les moutons urinent et défèquent, etc. Et c'est pour cela que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala disait « Al-aslu fil arwath at-tahara illa mastuthni ». Il dit la base dans les excréments, c'est que c'est pur. Sauf ce qui est venu à titre d'exception. D'accord ? Donc retenez bien cette règle. Un autre point que les savants du fiqh ont cité, c'est les restes, les restes de ce que mangent les animaux. D'accord, les restes, est-ce que c'est pur ou pas? Donc la même chose, les restes de ce que mangent les animaux dont on peut manger, donc toujours les mêmes animaux, leurs restes sont purs. Donc un exemple, si un mouton... À quoi ça te sert de savoir ça? Bon, on prend toujours l'exemple du mouton. Toi, chez toi, dans ton jardin, t'as vu, des fois, les gros bidons d'eau. Ou des fois, peut-être, tu récupères l'eau de pluie, etc. Et tu peux utiliser pour le wudu. Le mouton, il vient, il boit dedans. Est-ce que tu peux faire tes ablutions de cela? Oui. Parce que même s'il a laissé de la bave, ou même s'il a laissé des brindilles d'herbe, etc. Tout ça, c'est pur. Également, les restes du chat. Parce que le chat, on ne peut pas le manger. Mais le chat est pur. Le chat est pur et ses restes sont purs. Donc même si le chat te lèche ou si le chat vient boire dans l'endroit où tu vas faire tes ablutions, toutes ces choses-là, dans ce cas-là, cela n'afflue pas et cela n'est pas impur. Innaha laysat binajas. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parlant de l'hira, de la chatte, elle n'est pas impure. إنها من الطوافين عليكم والطوافات يعني les chats, c'est comme les servants qui sont autour de nous. Un chat, il tourne autour de toi, il est obligé de te toucher, etc. Donc c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait ressembler le chat aux servants qui sont autour de toi pour te servir, etc. Et également, tu pourrais pas te préserver d'un chat. Un chien, un cochon, etc. Tu peux faire en sorte qu'il ne touche pas. Mais un chat, il est toujours en train de te coller. Un chat est toujours en train de te coller, il vient sur toi, des fois, il monte sur ta tête. Il y aurait une grosse difficulté si on aurait dû s'en préserver. Également, certains savants ont mis dans la même catégorie du chat l'oiseau. L'oiseau, donc lui aussi, ses restes sont purs, comme pour le chat. En dehors du chat et de ceux qui est venu comme les volatiles, etc., tout le reste, leurs excréments, leurs urines et leurs restes sont impurs. Donc en dehors de cela, tout est impur.
Les excréments du chat, ils sont purs.
Non. Parce que les excréments du chat, est-ce qu'ils sont purs ou pas? Là, regardez bien la règle. La règle quant aux excréments et à l'urine, seulement ceux qui sont purs, c'est ceux de ceux qu'on peut manger. Chameau, vache, mouton. Là, on parle des restes. Donc, leurs restes à eux sont purs, excepté au reste des autres. D'accord? Donc, si on fait la différence entre les animaux qu'on peut manger et ceux qu'on peut pas manger, ceux qu'on peut manger, tout est pur. Leurs excréments, leurs urines, leurs restes. Ceux qu'on ne peut pas manger, tout est impur. Leurs excréments, leurs urines, leurs restes, hormis le chat et les oiseaux, les volatiles, etc. D'accord les frères? Donc ensuite, il termine par un conseil aux musulmans. Il dit, chers musulmans, tu te dois de donner toute l'importance à la purification, qu'elle soit cachée ou qu'elle soit apparente. C'était quoi la purification? Comment on purifie notre intérieur? Avec quoi? Avec le tawhid. Avec la sincérité en Allah, tabaraka wa ta'ala, dans toutes nos paroles et dans tous nos actes. Donc le musulman doit remettre sans cesse sa niya. Sans cesse, tu remets ta niya, ton intention. Tu renouvelles ton intention, peu importe ce que tu fais, tu renouvelles ton intention pour purifier ton intérieur du shirk. Également, tu purifies ton extérieur des impuretés et de l'impureté majeure et de l'impureté mineure. Car notre religion est une religion de pureté. Notre religion est une religion de propreté. Notre religion est une religion qui se préserve de toutes les ordures, de toutes les impuretés, de toutes les mauvaises choses, qu'elles soient abstraites ou concrètes. Et le musulman est pur. Et il est pur. Et il fait en sorte de ne toucher que ce qui est pur et de se préserver de tout ce qui est impur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, at-tahur shatrul iman. La pureté, la purification fait partie de la moitié de la foi ou d'une grande partie de la foi. Donc, cher serviteur d'Allah Azza wa Jal, tu te dois de donner toute l'importance à la purification, de t'éloigner de toutes les impuretés, car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que la plus grande partie du châtiment de la tombe, elle concernait qui? Ceux qui ne se préservaient pas de l'urine. La plus grande partie année du châtiment de la tombe. Donc ici le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé. Que la majorité du châtiment de la tombe est due à l'urine. Comme il dit dans le hadith, أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ. La majorité du châtiment de la tombe est due à l'urine. Et ici, on peut tirer plusieurs choses de ce hadith qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Le fait que le châtiment de la tombe est une vérité. Et ça, c'est un point important. Le châtiment de la tombe est une vérité. Et ça, c'est prouvé dans le Coran et dans la Sunna. Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit, dans Sourate Ghafir, la Sourate numéro 40, les versets 45 et 46,
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله عز وجل nous dit, alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, alors faites entrer les gens de Pharaon dans le plus grand des également l'imam Ibn Kathir rahimahullah dit dans son tafsir concernant ce verset est une grande base des gens de la sunna dans leur argumentation concernant le châtiment de la tombe, car certaines sectes ont rejeté la réalité du châtiment de la tombe, et les gens de la sunna répondent à cela comme ceci également. Aïcha radiallahu anha, elle dit, une juive est rentrée chez moi et elle m'a mentionné le châtiment de la tombe. Et elle a dit, qu'Allah te préserve du châtiment de la tombe. Alors j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cela, et je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, j'ai interrogé le prophète alayhi wa sallam concernant le châtiment de la tombe. Il a dit, na'am azabul qabr. Il a dit, oui, le châtiment de la tombe est une vérité. Et ensuite elle dit, qalat Aisha radiallahu anha, فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعود من عذاب القبر. Et je n'ai jamais vu ensuite, je n'ai pas vu le prophète صلى الله عليه وسلم prier une prière sans qu'il ne demande la protection d'Allah عز وجل contre le châtiment de Dieu. Ce hadith nous prouve, le hadith qu'on a cité au début, premièrement que le châtiment de la tombe, c'est une vérité. Et la deuxième chose, c'est que le fait de se nettoyer après avoir ruiné est une cause, ou le fait de mal se nettoyer, ou de ne pas se nettoyer, ou de mal se nettoyer après avoir uriné, est une cause que la personne sera châtiée dans sa tombe. Donc c'est pour cela que le Cheikh, Habibullah Ta'ala, nous dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que la majorité du châtiment de la tombe était... Et elle y était due à l'urine, lorsque la personne ne se préserve pas de l'urine. Donc lorsqu'une impureté te touche, précipite-toi à la purifier tant que tu le peux, et tant que tu peux, reste pur, surtout lorsque tu veux prier. Surtout lorsque tu veux prier, mets-toi en état de pureté total. Et lorsque tu veux également, il a été rapporté dans la sunna, lorsque tu veux rentrer dans la mosquée, regarde tes chaussures, regarde tes sandales. Si sur tes sandales il y a une impureté, dans ce cas-là, essuie-les, nettoie-les, purifie-les et ne rentre pas à la mosquée avec une impureté. Et ici on termine par une question: est-ce qu'il est autorisé de prier avec ses chaussures? Est-ce qu'il est autorisé de prier avec ses chaussures? Exactement. Il est certes autorisé, et en plus de ça, ça fait partie des grandes sunan à ne pas délaisser. Parce que beaucoup pensent qu'on ne peut pas prier avec la chaussure.
Après, leur mosquée, était différente, il n'y avait pas de tapis.
Également, ce hadith nous prouve que la mosquée en ce temps-là, les gens rentraient avec leurs sandales et n'avaient pas de tapis. Mais nous, la question, ce n'est pas ça. Bien sûr, rentrer dans une mosquée avec nos chaussures, aujourd'hui, on ne va pas le faire parce que nos mosquées, elles sont dans le tapis. C'est pour ça que nous, on repose la question autrement. Prier avec tes chaussures. Tu vois, est-ce que c'est autorisé? Oui. Et la preuve, et on termine sur ça. C'est ce hadith qu'on a cité. Lorsque l'un d'entre vous va à la mosquée, il doit regarder ses sandales. Et s'il voit une impureté ou une saleté dessus, il doit essuyer et ensuite prier. Prier avec. Et cela est une partie du... Et c'est une partie d'un hadith. Également, Cheikh Muqbil, rahimahullah, a cité ce hadith dans son entièreté. Et également, dans ce hadith, on trouve la règle du respect de la mosquée et du fait de garder propre la mosquée. Ça, déjà, à partir de ce hadith, avant de parler des chaussures, on peut trouver l'importance de garder propre la mosquée. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, nous l'a ordonné dans son livre. Allah Azza wa Jal nous l'a ordonné dans son livre, dans Salat al-Hajj. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a indiqué à Ibrahim alayhi salam le lieu de la Kaaba, le lieu de la maison, en lui disant « Ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et s'y prosternent. » Également, Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Nour, dans le sens du verset, il dit « Dans des maisons qu'Allah a permis que l'on élève, où son nom est invoqué, le glorifie en elle, yani matin et soir. » Et également, l'histoire de la femme qui nettoyait la mosquée. La femme de la, qui nettoyait la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'elle est morte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas qu'elle était morte. Et il a demandé de ses nouvelles. Qu'est-ce qu'Abu Huraira radiallahu anhu il rapporte, il dit, une femme au teint noir qui avait l'habitude de nettoyer la mosquée. C'était une femme noire qui avait l'habitude de nettoyer la mosquée. Un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda de ses nouvelles. Les gens lui ont dit qu'elle était morte. Et là, il a dit, pourquoi ne m'a-t-on pas informé? Et il apparaît qu'ils eurent traité cette affaire comme une petite affaire. Le prophète a dit, ils ont traité cette affaire comme une petite affaire, comme si cette femme n'avait pas d'importance. Et là, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Amenez-moi sa tombe. Amenez-moi sa tombe. Ils l'emmenèrent donc à cet endroit et il a fait la prière, il a fait la prière sur elle. C'est-à-dire que le prophète a fait la prière au cimetière. C'est strictement interdit de prier une prière au cimetière, sauf la janaza. La janaza, tu peux la prier. Un exemple, toi, quelqu'un t'a appris qu'il est mort, il est mort hier. Toi, tu n'étais pas au courant, tu n'as pas pu venir à sa janaza, tu n'as pas pu te déplacer. Mais ici, les savants ont déterminé une période d'un mois où tu peux aller à sa tombe, tu te mets en direction de la Qibla et tu fais la janaza, même tout seul. Tu fais la janaza dessus. Ça, c'est une règle importante à savoir. Et notamment, la preuve, c'est ce hadith où le prophète, alayhi salam, est parti jusque-là et il a prié et il a prié sur elle. Et dans d'autres versions du hadith, si je ne me trompe pas, il a été rapporté qu'ils lui ont dit c'était la nuit, on n'a pas voulu te réveiller. C'est pour cela que les sahabas ne l'ont pas appelé. Et ce hadith prouve aussi qu'il n'y a pas de mal à enterrer la nuit. Parce qu'encore hier, quelqu'un m'a appelé pour me demander, pour poser cette question, est-ce qu'on a le droit d'enterrer la nuit ou pas? Et ce hadith fait partie des preuves que les savants ont citées. Et ensuite, il dit, ensuite le prophète, alayhi salat salam, Il a prié sur sa tombe. Et il a dit, en vérité, ces tombes, écoutez sa parole, subhanallah. Il a dit, alayhi salam salam, en vérité, ces tombes sont remplies d'obscurité pour leurs habitants. En vérité, Allah, tabaraka wa ta'ala, les illumine pour leurs occupants à cause de la prière que j'ai faite sur eux. Donc regardez le grand bienfait de la salat janaza, le grand bienfait de la salat janaza. Donc ce hadith nous indique l'importance de nettoyer la mosquée. Elle nous encourage à le faire. Également, le hadith au-dessus nous encourage qu'il est préférable de prier avec les chaussures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait lui-même avec ses chaussures, comme cela a été indiqué dans le Sahih al-Bukhari et dans le Sahih de l'imam muslim. Il a été rapporté de Ibn Yazid al-Asdi, il dit, j'ai demandé à Anas ibn Malik si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà prié avec ses chaussures, il a dit oui. Et ce hadith est dans le Bukhari, dans le livre de la prière numéro 384. Également, le fait de prier avec ses chaussures, ça nous différencie des juifs. Comme l'a rapporté Abu Daoud dans ses Sunan, le hadith de Shaddad ibn Aous, radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Différenciez-vous des juifs. » En vérité, ils ne prient pas avec leurs chaussures. En vérité, ils ne prient pas avec leurs chaussures. Donc, voilà pour ce que l'on peut dire par rapport à cela. Il y a encore énormément de choses à dire. Et alhamdoulilah, il nous restera un chapitre, bi'idhnillah, au prochain cours, qui sera le dernier cours, puisque pendant les vacances, il n'y a pas cours. Donc, prochain cours, inshallah, on fera le chapitre des menstrues. Bi'fadlillahi tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ash'hadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana an ilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.